Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire, ce matin, Nord Kivu, annoncé pour ce jeudi par un communiqué de la force régionale, le retrait des rebelles du M23 des Rumangabo et Kishishe est très attendu par la population de la contrée. Pendant ce temps, l'opinion locale ne digère pas le fait que ces rebelles expriment une chose et font le contraire, notamment le fait de se retirer pendant qu'ils en occupent d'autres et renforcent même leur position sur d'autres axes. Nous reviendrons également sur la commémoration hier mercredi 4 janvier 2023 de la journée des martyrs de l'indépendance, notamment à Kisangani dans la Tchopo, avec cette annonce de Madame le gouverneur des réhabilités, la place qui leur est dédiée pour leur mémoire au cœur de la commune de Makiso en plein centre de Kisangani. L'invité de ce journal est le ministre provincial des Transports du Sud Kivu. Mathieu Ali Massi reviendra sur les mesures prises pour garantir la sécurité sur la voie publique à Bukavu, notamment le test pour détecter les taux d'alcool au volant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans l'actualité, annoncé pour ce jeudi 5 janvier 2023 par un communiqué de la force régionale, le retrait des rebelles du M23 des Rumangabo et Kishishe est très attendu par la population de la région. La société civile des Rumangabo affirme qu'au moins deux convois de militaires kenyans de l'EAC sont arrivés hier mercredi vers 11h locales à Rumangabo, mais aucun signe de retrait des rebelles n'a été observé dans ces entités. Dans un communiqué d'hier, mercredi 4 janvier, le M23 a réaffirmé sa volonté de se retirer de ces deux entités pour le céder à la force régionale. Et pendant ce temps, la panique a régné toute la soirée sur l'axe Nyamilima-Ishasha, plus au nord de Rutshuru, après l'occupation hier mercredi matin de Nyamilima. Le point avec vous, Guy Maté.
À en croire les déclarations de la société civile dans ces localités de Rutshuru, bien qu'elle ne soit pas convaincue du retrait effectif de ces rebelles à Kibumba il y a quelques temps, les habitants de Kishishe en particulier, qui sont coincés depuis l'occupation de leur entité, ne souhaitent que le départ du M23. Ces habitants rescapés du massacre de plus de 100 personnes perpétrées à Kishishe fin novembre 2022 pendant l'occupation, se disent meurtries et prises en otage depuis. Cependant, à Rumangabo, selon la société civile, les deux convois des militaires de l'EAC arrivés ce mercredi au camp militaire seraient visiblement en reconnaissance du terrain en attendant une cérémonie éventuelle ce jeudi 5 janvier. Dans son communiqué rendu public ce jeudi, le M23 a confirmé son retrait de Kibumba depuis le 23 décembre, ainsi que sa détermination de le faire à Rumangabo et Kishishe à la date convenue. Pendant ce temps, l'opinion locale ne digère pas le fait que ces rebelles expriment une chose et font le contraire. C'est notamment le fait de se retirer d'une zone occupée alors qu'ils en occupent d'autres et renforcent leur position sur d'autres axes. Cette question suscite plusieurs réactions et mécontentements au sein de la population qui dit ne plus croire en la force régionale. Rappelons que depuis le retrait du M23 à Kibumba, la population déplacée n'a pas accepté de rentrer dans leur village s'il n'est pas sécurisé par les FRDC.
Et puis le groupe d'action pour la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats, Gaderes en sigle, dénonce l'amplification du recours aux enfants pour gonfler les rangs des groupes armés et autres groupes d'autodéfense communautaire. Dans un communiqué publié hier mercredi, cette structure de la société civile s'est dit extrêmement préoccupée par la persistance et l'ampleur de la violence armée. Gaderes tient à souligner qu'aucun enfant ne peut se déclarer volontaire ou être considéré comme tel, sous prétexte qu'il faut défendre et protéger la communauté. De même, les groupes opérant en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu, n'ont aucune excuse dans ce sens. On écoute Clovis Kada, coordonnateur principal de Gaderes, au micro dans les Irung.
Les agences de protection de l'enfant présentes dans les zones de conflit continuent de répertorier des cas avérés de recrutement et ou de l'utilisation des enfants. À l'initiative de M. Sultani Makenga, général autoproclamé, le mouvement du 23 mars M23 a entamé en juillet 2022 une campagne de recrutement incluant des enfants dans le territoire des Rutshuru, Walikale, Lubero et Masisi. Ces enfants ont plus d'être témoins ou auteurs d'atrocités commises sur les lignes de front, servent entre autres à la collecte et à l'acheminement des bétails et des produits agricoles extorqués aux paisibles citoyens. En Ituri, la Codeco, Zaïre, la force de défense contre la balkanisation du Congo, et au sud Kivu, puis Rwanéo en font autant.
Sachez que Gaderès recommande notamment au gouvernement de tout faire pour que les responsables du recrutement et de l'utilisation des enfants répondent de leurs actes un jour devant la justice. En Ituri, pendant ce temps, 13 personnes enlevées en décembre dernier par les groupes armés Codeco à Bambou, une quarantaine de kilomètres de Bounia dans les territoires de Djougou, ont été libérées hier soir. Parmi elles, une femme et son bébé. Visiblement en bonne santé, ces personnes ont été relâchées au cours d'une cérémonie solennelle puis remises aux autorités locales en présence des FARDC et de la MONUSCO qui a joué le rôle de facilitateur. Le président de la communauté Lori, qui regroupe le peuple lindou, salue ce geste des leaders de la Codeco. Il les exhorte à demeurer dans la voie de la paix, en dépit des difficultés qui jalonnent ce processus. Jean-Claude Lokidile, reportage.
Parmi ces otages figurent une femme et son bébé, kidnappés le 23 décembre dernier à Bambou alors qu'ils quittaient le centre commercial de Kilo pour se rendre à Bounia. Ces personnes avaient aussitôt été conduites à Peti, l'une des bases de la milice Codeco. Son bébé de 3 mois serré dans ses bras, Mavé Imani, manifestement fatigué, se réjouit d'être libre après 13 jours de captivité. C'est vrai que là-bas, je n'ai pas souffert. Ils donnaient à manger à mes 2 enfants. On avait de l'eau pour se laver. Mais quand je vais arriver à Bounia, je serai très content que si j'avais de l'argent, j'aurais pu appeler mes proches et organiser une fête. Le président de la communauté Lori s'est lui aussi félicité de ce dénouement heureux, mais il reconnaît que le processus de paix en cours, piloté par le gouvernement avec l'appui de la MONUSCO, rencontre des défis énormes, notamment avec des attaques de la milice Zaïre. Célestin Tawara demande néanmoins aux leaders de la Codeco de ne pas recourir à la violence.
C'est la raison pour laquelle nous leur avons demandé de pouvoir attendre le programme de désarmement et de mobilisation, et sans pour autant céder à la provocation ni moins à la manipulation.
5 autres otages arrêtés dans les territoires de Mahaki par des éléments de la Codeco dans la chefferie d'Angal ont eux aussi été libérés et remis à l'administrateur du territoire de Djougou ce même mercredi. De retour des bambous, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Au Kwilu, le commissaire provincial de la police, le général Kanold Kamana, vient d'installer quelques sous-commissariats et escadrons d'intervention rapide de la police dans le territoire de Bagata, précisément dans les secteurs de Wamba où règne depuis un certain temps l'insécurité occasionnée par des assaillants armés. Objectif, maintenir la paix dans cette partie du pays. Pour le moment, la paix règne dans cette contrée. L'information a été livrée à la presse par le porte-parole de la police du Kwilu, le colonel Camille Atungale. Des précisions avec vous, Irène Boma.
Ces nouveaux sous-commissariats de la police sont implantés précisément dans les cités de Kikongo, de Fatundu, de Kilungu et ailleurs dans les secteurs de Wamba en territoire de Bagata. Plusieurs éléments de la police sont commis dans ces sous-sièges pour constituer un bataillon opérationnel dans ces coins de la province du Kwilu insécurisé depuis un moment par des assaillants armés. Le colonel Camille Atungale est le porte-parole et chargé des communications de la police du Kwilu.
Au niveau du territoire de Bagata, le commissariat provincial s'est arrangé pour implanter quelques sous-commissariats ainsi que des escadrons mobiles d'intervention. C'est ainsi qu'à partir de Bandundu, nous avions dépêché quelques compagnies du groupe mobile d'intervention nord, basé à Bandundu, et de Kikwit, quelques compagnies également du groupe mobile d'intervention sud, basé à Kikwit, pour constituer un bataillon opérationnel. D'ailleurs, le commissaire provincial, le général Kanol Kamana, il vient d'installer tous ces gens-là, ils sont là, ils sont en train de maîtriser la situation, maintenir la paix.
À l'occasion, le colonel Atungale a annoncé que depuis lundi 2 janvier 2023, la police nationale congolaise, commissariat provincial du Kwilu, procède au recrutement des jeunes qui iront en formation de base pour devenir des policiers de carrière. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, je le disais au début de ce journal, l'histoire des martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959 doit être conservée et racontée à nos enfants. Raison pour laquelle la place des martyrs qui leur est dédiée doit être réhabilitée pour leur mémoire. C'est la déclaration de Madame, le gouverneur de la province de la Tchopo, Madeleine Nikomba, hier mercredi, lors du dépôt d'un bouquet de fleurs au pied de la stèle de cette place mémorable au cœur de la commune de Makiso à Kisangani. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Bondée des mondes, la place des martyrs de l'indépendance a connu une ambiance solennelle à l'occasion de la commémoration de cette journée historique. Des tentes ont été installées juste au rond-point du cinquantenaire pour abriter les différentes autorités tant civiles, coutumières, policières que militaires venues pour assister à cette cérémonie. Sous les airs de la fanfare, l'autorité provinciale a gravi les marches de la stèle au pied de laquelle elle a déposé un bouquet de fleurs en mémoire des martyrs de l'indépendance qui repose ici pour l'éternité. fraternité. Une occasion pour Madeleine Nikomba Sabangu de justifier ce geste.
Ces martyrs ont versé de leur sang pour l'indépendance de ce pays. Nous avons un sentiment de reconnaissance envers leurs personnes qui sont parties et nous espérons qu'en honorant leur mémoire, leurs âmes reposent en paix.
Ce 64e anniversaire des martyrs de l'indépendance intervient dans le contexte de la tentative de balkanisation de la RDC. Pour Madeleine Nikomba, le même sentiment de patriotisme qui a animé les martyrs de l'indépendance est brûlant dans le cœur du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne gire que par l'unité de la RDC et de sa non-balkanisation. Cela ne se fera jamais, a-t-elle souligné. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Sachez qu'en rapport avec les manifestations de ce jour, un concours des artistes a été organisé. Il consiste en la production de portraits de quelques martyrs dont les photos ont été retrouvées. Une course cycliste et un match de football opposant l'équipe du gouvernorat de province et celle de l'Assemblée provinciale a été organisée aussi hier après-midi au terrain de Scolastica. Et en Mbandaka, la journée des martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959 n'est pas passée inaperçue. Des jeunes des différentes associations citoyennes, dont Filimbi et Lucha, ont procédé aux travaux d'assainissement, notamment aux alentours du monument dédié à ses compatriotes au terrain communal de Wangata, car leur mort, qui a abouti à l'indépendance de la RDC, n'a pas été vaine. Elle doit plutôt éveiller la motivation, le sacrifice et l'engagement de la jeunesse dans les processus de développement sociopolitique, économique et sécuritaire du pays. Au Kasaï oriental, l'évêque du diocèse de Mbujimayi sollicite l'instauration d'une commission de suivi des travaux réalisés dans la province. Bernard Emmanuel Kassanda l'a dit au chef de l'État lors de la messe de Nouvel An. La lenteur observée dans l'exécution des travaux est décriée également par plus d'un habitant de la ville de Mbujimayi. Des explications avec Esther Ndalafina.
Plusieurs habitants de Mbujimayi déplorent la lenteur observée dans les travaux de construction de quelques infrastructures routières, hospitalières et d'énergie électrique dans la province. Dans une déclaration qui circule sur les réseaux sociaux, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda, a également relayé l'inquiétude de la population. Selon lui, les partenaires qui ont gagné le marché des différents projets doivent faire diligence pour respecter le délai imparti pour les travaux.
Il faut mettre en exemple nos partenaires et ceux qui travaillent à pouvoir le faire. Il est vrai que quand le président de la République, chaque fois qu'il n'est pas là, les travaux n'arrivent pas à bien se faire. La population a effectivement raison et le chef de l'État a vécu ça d'ailleurs en visitant l'université. Mais également les travaux des facilités qui se font sur les routes sont chaque fois arrêtés quand ils passent.
Pour accélérer l'exécution des travaux, l'évêque a au cours de la messe sollicité auprès du chef de l'État l'instauration d'une commission de suivi des travaux. Se confiant sous anonymat, certains responsables de projet déclarent qu'au regard de l'état d'enclavement de l'espace Kasaï, un accompagnement sérieux des autorités locales serait plus qu'indispensable. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis le rapport de l'inspection générale des finances publié cette semaine, notamment sur l'entreprise congolaise Cominière qui exploite les ressources minières dans la province du Tanganyika, parle selon l'IGF du bradage d'un patrimoine et des ressources minières de la RDC. Et selon la même source, il y aurait aussi des complicités gouvernementales dans ce dossier. Un avis qui divise l'opinion, certaines soutenant l'IGF et d'autres l'accusant d'avoir des intérêts personnels dans ce dossier. Le point avec vous, Donna Madimba.
Maïs Chibangu, journaliste qui dit suivre de près ce dossier et de nombreux autres, dénonce selon lui le temps utilisé par l'actuel patron de l'IGF en indexant le ministère du portefeuille et considère dans ses conclusions que le patron de l'inspection générale des finances lui-même a des intérêts personnels dans ce dossier conifère.
Comment est-ce que M. Liketi peut faire une conférence de presse qui est relayée en temps réel en Australie sur le site privé de AVZ? Mais comment aujourd'hui, Nalingeti parle en bien sur les médias de AVZ, une société en conflit direct avec l'État congolais. Comment ?
De son côté, la Ligue congolaise anticorruption Likoko, dont ce genre d'affaires est l'activité principale, elle soutient totalement les conclusions de l'IGF, Ernest Mpararo.
Nous avons des lettres. Moi, je peux vous produire des lettres que la ministre a signées. Deuxièmement, il y avait une étude. Et c'est cette étude où l'IGF s'est basé. Et l'étude a été faite par des cabinets internationaux. Aux minières, connaissant cette étude, ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils ont vendu ça à 33 millions. C'est ça le bradage qu'on les acquise. Ils ne peuvent pas refuser.
Le rapport de l'IGF, lui, est donc déjà public. Et seules les conclusions de la justice nous fourniront alors l'avis définitive.
Actualité internationale.
La Tanzanie a signé mardi dernier un contrat de 2,2 milliards de dollars pour achever le dernier tronçon d'un immense projet ferroviaire devant relier dès 2026 Dar es Salaam au Burundi et à la RDC. La Tanzanie se pose ainsi en concurrent du Kenya qui ambitionne lui aussi de devenir la porte de sortie de l'Afrique de l'Est. En Somalie, au moins 19 morts après un double attentat revendiqué par les Shebab. Une attaque à la voiture piégée qui a eu lieu hier mercredi matin 4 janvier dans le centre du pays.
L'invité.
Comme annoncé au sommaire, l'invité de ce journal est le ministre provincial des Transports du Sud-Kivu. Mathieu Alimasi revient sur les mesures prises pour garantir la sécurité sur la voie publique à Bukavu, notamment les tests des conducteurs pour détecter le taux d'alcool au volant. Mathieu Alimasi a été à Bukavu avec Cynthia Bachizina Bizana.
Monsieur Alimasi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez annoncé des innovations dans votre secteur au cours de l'année 2023. Est-ce que vous pouvez les lister?
2023 sera pour le ministère des Transports, ici à province du Sud-Kivu, une année de changement. Parce que nous voulons innover notre travail. Je voudrais juste faire un logiciel que nous appelons ici e-transport. C'est-à-dire, c'est un logiciel qui va contenir tous les éléments, toutes les données qui concernent le ministère ici des Transports. Et c'est-à-dire, c'est un logiciel qui va identifier, enregistrer tous les engins roulants terrestres. Aussi, ça cadre avec la diminuer sensiblement les tracasseries routières à travers une approche technologique et numérique qui est implémentée déjà ici dans ce secteur des transports. On va équiper les services des brigades de la CPR comme contrôle routier par des matériels. Et là, on peut citer des sabots d'immobilisation. Nous voyons les comportements de nos chauffeurs. Il y a des POS Android, des tablettes Android, des pèses pour véhicules.
Donc, vous êtes vraiment dans une dynamique de digitalisation hein, dans votre secteur. Est-ce que il y aura aussi une innovation dans tout ce qui est contrôle du taux d'alcool au volant?
C'est ça, madame. Je disais qu'on va équiper la police de la circulation routière d'un arsenal de matériel. Et je viens de citer là-bas, il y a des jumelles de vie de loin. On va donner aussi des jumelles détecteurs de vitesse. On va donner des caméras mobiles. On va distribuer des pistolets détecteurs de vitesse. On va donner aussi les détecteurs d'alcoolémie, les taux d'alcoolémie dans le corps de nos chauffeurs. Et voilà, tout cet arsenal-là, ces matériels, sont des matériels qui permettent que, pour assurer la sécurité et du chauffeur, mais aussi des voyageurs ou des transporteurs.
Quel est aujourd'hui le taux attribué à l'ivresse au volant lors des accidents de circulation dans la ville de Bukavu?
À ville de Bukavu, moi je pense tous les accidents que nous vivons c'est causé par l'alcool. C'est-à-dire, on constate que les chauffeurs étaient dans un état d'ivresse. Et voilà donc presque tous les accidents. Donc le taux est élevé. Le taux étant élevé, raison pour laquelle le ministère a jugé utile de mettre cet instrument-là pour détecter les taux de l'alcoolémie ou l'alcool dans le corps du conducteur ou du chauffeur.
Parlons de ce test d'alcoolémie. Quel sera alors le seuil tolérable, donc le seuil à ne pas dépasser si on a bu et que l'on veut prendre le volant?
On ne doit pas avoir un taux d'alcoolémie très élevé dans le corps. Et d'ailleurs, on n'accepte pas qu'il soit moins inférieur ou comment. Tout chauffeur n'est pas autorisé de prendre le volant tant qu'il a pris même un verre d'alcool. Ça, ce n'est pas accepté ici dans la province et notamment dans le ministère ici des Transports. Nous n'acceptons pas, nous n'autorisons pas un chauffeur, quand il veut conduire, prendre même un verre. Ça, on refuse. Même une cuillerée. Ça, on refuse.
Donc, c'est soit boire ou conduire.
Entre les deux, il faut choisir. Si vous buvez, restez chez vous. Et si vous conduisez, il ne faut même pas prendre une cuillère d'alcool.
Pour terminer, la ville de Lubumbashi avait déjà innové avec ce test d'alcoolémie, mais il y avait quand même beaucoup de dérapages qui étaient constatés dans le chef des agents qui régulent la circulation, des agents de la PCR. Quelles sont les assurances que vous nous donnez pour que ce contrôle s'efface dans le respect des normes?
Dans le respect des normes, dans un premier temps, ici, on va former. On va former une équipe qui va s'en charger, c'est-à-dire une équipe mobile qui sera sur la chaussée. Là, on ne va pas distribuer les matériels à n'importe qui. Tous les agents qui seront sur la chaussée et qui vont utiliser ces matériels que je viens de citer ici, ils seront formellement formés, c'est-à-dire sont déjà des agents capables. capables d'utiliser ces matériels, capables d'eux-mêmes de ne pas être ivres. Et puis là, je pense que ça va aller correctement. Si on ramasse n'importe qui, c'est là le dérapage. Mais quelqu'un qui est formé dans ces matières, et moi je pense qu'il va le faire avec beaucoup de professionnalisme.
Monsieur le ministre Ali Massi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de ce journal. Le ministre provincial des Transports du Sud Kivu, Mathieu Ali Massi, a été à Bukavu avec Cynthia Bachizina Bizana. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.